Radio Okapi. Journal présenté par Noéla Louzit Kabambi.
Le premier salon minier du Lualaba a ouvert ses portes ce jeudi. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ce salon minier vise notamment, selon la gouverneure du Lualaba, à enrayer l'inadéquation entre les richesses du pays et la pauvreté de la population. Poursuite des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle de 2023, ce jeudi se sont présentés au BRTC, Bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI à Kinshasa, Marie-Josée Ipoku, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, AENC, première femme à déposer sa candidature, et Georges Boussé-Palaï, sénateur honoraire et ancien directeur de cabinet de feu président Laurent Désiré Kabila. Le substitut du procureur de la République de Bukavu, Lubumbu Niembo Blaise, est l'invité de ce journal. Il revient ici sur la problématique des conditions de garde à vue dans des cachots et amigos entretenus par les OPJ de la PNC à Bukavu. Bonsoir à tous. Début ce jeudi à Kolwezi dans le Lualaba, du premier salon minier du Lualaba. Le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui séjourne depuis mercredi. À cette occasion, la gouverneure Fifi Masuka a indiqué que le problème de l'inadéquation entre les richesses du pays et la pauvreté de la population sera débattu et des solutions seront proposées pour que les populations locales trouvent aussi leur compte. On écoute la gouverneure du Lualaba dans cet extrait choisi par Jean Gando.
Depuis des décennies, le Lualaba produit des milliers de tonnes de cuivre et cobalt, de loin plus qu'à l'époque de la Gécamine. Cependant, il manque ardemment des infrastructures durables à tous les niveaux, les logements sociaux, les hôpitaux, les écoles, qui reflètent l'image de cette exploitation. Ceci est pour le moins aberrant. Ce salon minier constituera en outre une vitrine où le Lualaba exposera ses propres potentialités d'investissement ou au reste du monde. Plusieurs salons à travers la planète ont parlé du Lualaba, mais cette fois-ci, on est mieux servi que par soi-même. Le Lualaba parlera du Lualaba. La question primordiale est celle de savoir si libéralisation de l'exploitation des ressources naturelles a des liens directs avec le développement socio-économique du Lualaba. Ce salon éclaircira le lien de causalité entre la traçabilité dans l'exploitation minière artisanale et l'émergence d'une classe moyenne des artisans miniers.
Parlons processus électoral. Ici à Kinshasa, Marie-Josée Ipoku, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, AENC, est la toute première femme à déposer ce jeudi à la CENI sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Selon elle, il s'agit d'une candidature de la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Combolisation vient de Kokombola en Lingala, c'est-à-dire balayer. La combolisation est donc pour Marie-Josée Ipoku la volonté de balayer les antivaleurs. Au sortir du bureau de réception et des traitements des candidatures, un balai traditionnel à la main, elle a confié à la presse avoir remis un balai au président de la CENI pour balayer toutes les irrégularités du processus électoral actuel et éviter ainsi ce qui s'est passé antérieurement. Le second candidat président de la République à avoir déposé son dossier ce jeudi à la CENI, c'est Georges Boussé-Palaï, sénateur honoraire et ancien directeur de cabinet de feu président Laurent Désiré Kabila. Devant la presse, il indique que sa candidature est un moyen de défense de la majorité dite silencieuse qui souffre de plusieurs maux dans le pays, notamment l'insécurité et la pauvreté. Allons dans la province de l'Équateur où il y a eu évaluation hier mercredi à Mbandaka des travaux réalisés dans les 7 territoires de cette province avec le financement du PDL 145 territoires. Le taux de réalisation reste satisfaisant par rapport aux difficultés rencontrées selon l'antenne provinciale du DPL Mbandaka. Il reste des travaux de finition pour plusieurs ouvrages avant leur remise aux populations bénéficiaires. La question a été au centre d'un atelier de communication et d'information à l'intention notamment des autorités politico-administrative, de la société civile et de la presse. Atelier organisé par l'antenne provinciale du PDL. Des précisions avec vous, Paul-Richard Malengela.
À l'Équateur, le PD145T est piloté par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF en sigle. Dans le 7 territoire qui compte la province, la première phase a consisté à la construction des 55 écoles, 38 centres de santé et 7 bâtiments administratifs. Et tout le financement de la première phase a été décaissé selon le point focal du programme. Mais jusqu'au 30 septembre dernier, la plupart des ouvrages sont entre l'exécution et l'achèvement. À peine 5 écoles ont été achevées et équipées. Entre-temps, une école, 6 centres de santé et 2 bâtiments administratifs sont encore au niveau de fondation. Voilà qui a soulevé les sentiments d'inquiétude et de doute parmi les participants au regard des échéances électorales de décembre prochain. Quoi qu'il en soit, le point focal et chef d'antenne de la CFF Équateur s'est dit satisfait au regard de nombreuses difficultés rencontrées. Albert Chango a plutôt rassuré que dans 2 mois, tous les ouvrages seront finis, équipés et réceptionnés par leurs bénéficiaires.
Je donne des garanties au chef de l'État, à l'opinion provinciale, que nous nous démerdons pour terminer fin novembre, on termine, parce que nous avons les moyens. La première stratégie, c'est d'augmenter les effectifs. La deuxième stratégie, coller des régisseurs, des sous-traitants. Donner à chaque régisseur un chantier pour qu'ensemble, au même moment, on avance et dans 2 mois, on en finisse.
Bon, d'accord, pour Chamalingué, la radio Okapi.
En Ituri, ce sont les usagers de la route Bunia-Kasseni qui déplorent la multiplicité des barrières qu'ils jugent illégales sur cette route d'intérêt économique. Ils l'ont fait savoir à une équipe de la section de l'information publique de la MONUSCO Ituri qui s'est rendue hier dans la zone. Ils dénoncent les tracasseries de la part des hommes en uniforme. Ces derniers leur exigent de payer entre 500 et 1000 francs congolais à chaque barrière. Ils invitent les autorités militaires à mettre fin à ces raquettes qui affectent leurs revenus. Ezekiel Mouzali.
Les conducteurs de taxi-moto qui empruntent régulièrement les tronçons Bunia-Bogoro-Kasseni pour ravitailler la ville en denrées alimentaires disent débourser en moyenne 5 000 à 10 000 francs congolais sur la route. Nous avons recensé une quinzaine de barrières dont plus de la moitié sont érigées par des militaires sur ces tronçons utilisés pour des échanges commerciaux entre Bunia et Kasseni. Juste en traversant les bureaux de la Direction Générale des Recettes de la province au quartier d'Elé, pour emprunter l'axe Mbogu-Kotoni jusqu'à Bogoro, au moins 8 barrières sont installées par les FARDC. À chaque poste de contrôle, une somme de 500 à 1000 francs congolais est exigée à tout conducteur de taxi-moto avant le passage. Situation similaire également sur la colline surplombant la vallée de Kasseni, Manje, Nyamavi, jusqu'à l'entrée du centre de Kasseni. Selon les conducteurs de taxi-moto, ces raquettes affectent leurs revenus de plus en plus maigres. L'un d'eux.
Nous sommes tracassés beaucoup par les soldats. Avec le prix du carburant, vraiment, nous avons un manque à gagner avec cela.
Contacter le porte-parole de l'armée à Ituri nie toute forme de tracasserie de la part des militaires sur cette route. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo affirme qu'un contrôle régulier sera effectué sur différents axes routiers afin de punir les militaires qui se livreraient à ces pratiques que dénoncent les usagers sur différents axes routiers de la province. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Kwilu, la société civile du territoire de Gungu déplore l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'axe routier qui va de Pekastisson jusqu'à Kakovola, long de 70 km. Le président de cette structure indique que ces travaux financés par le gouvernement congolais pour une durée de 6 mois étaient exécutés par la société Apritec. Pour Joachim Kusamba, la réhabilitation de ce tronçon routier allait le rendre praticable afin de désenclaver le territoire de Gungu. Il propose à l'Office des routes d'attribuer ce marché à une autre entreprise pour finaliser ses travaux. Plus de détails avec Irène Boma.
Lancé depuis le 25 juin 2023 par le gouverneur de la province du Kwilu, les travaux de réhabilitation de l'axe routier allant des points kilomètres 622 jusqu'à Kakobola, en passant par les chefs-lieux du territoire de Gungu, se sont arrêtés il y a de cela 2 mois. Selon le président de la société civile de cette entité qui les dénonce, en 1 mois, la société Afritec n'a réhabilité que 2 kilomètres de route sur les 70 prévus pour une durée de 6 mois. Joachim Kusamba appelle l'Office des routes à prendre d'autres dispositions afin que ces travaux soient exécutés dans le but de désenclaver les territoires.
Les travaux s'étaient arrêtés sur les 70 km, la FITEC a réalisé que 2 km, alors que pratiquement moitié déjà de la durée du contrat est déjà donc épuisée. Les engins qui étaient sur la route, ils avaient même bien évacué ça. Et ce sont des engins de mauvaise qualité. C'est comme ça que nous sommes en train encore de demander à l'Office des routes de lancer encore l'appel d'offres, soit d'attribuer ces marchés-là à une autre entreprise pour que vraiment nous soyons sauvés. Nous sommes totalement enclavés.
Nos efforts pour avoir la réaction de la société Afritec n'ont pas abouti jusque-là. Il faut signaler que ces tronçons d'intérêt capital pour les échanges commerciaux entre Kikwit et Kayemba est dans un état de dégradation très avancé, a indiqué Joachim Kusamba. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
En plus bref, la situation est restée tendue toute la journée de ce jeudi sur les lignes de front où s'affrontent les groupes armés locaux aux combattants du M23 dans le territoire de Masisi au nord Kivu. Nos sources affirment que les tirs ont duré toute la journée dans la région de Kiloli-Rwenturo, contrôlée par les forces locales d'autodéfense. Ces dernières pourchassent le M23 dans les collines et pâturages des alentours. Plusieurs maisons ont été incendiées dans la cité de Kiloli-Rwe. Sur l'autre front, Atsukichanga, des sources locales affirment que les groupes armés locaux ont pris le contrôle de la localité de Kibarizo au cours des combats de ce jeudi. Ces derniers envisageraient de poursuivre jusqu'à Kichanga, rapportent nos sources. L'axe routier Tongo-Kichanga, principale voie de ravitaillement des hommes du M23 et qui relie Rutshuru et Masisi, aurait également été coupé par la coalition des groupes armés locaux. Au sud Kivu, notez le lancement ce jeudi à Chivanga, dans le territoire de Kabare, du projet dénommé Kahuzi-Biega Parc National de Paix, une initiative des Nations Unies et du gouvernement congolais à travers l'ICCN. Il vise la consolidation de la paix, la promotion des activités économiques autour du parc et l'attraction des autres investissements. La cérémonie du lancement de ce projet a été présidée par Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Le point avec Emmanuel Elamejo Akabedi.
Kahuzi-Biega Parc National de Paix est un projet qui vise la création d'un environnement propice à la paix durable au PNKB, la préservation de la biodiversité et le développement économique, mais aussi les efforts pour la lutte contre le changement climatique, tout en intégrant les aspects spécifiques liés aux droits de l'homme et aux peuples autochtones en particulier. C'est Monsieur Bruno Lemarquis, chef adjoint de la MONUSCO, qui vient de lancer ce projet aux côtés du directeur général de l'ICCN, Yves Milan Ngaingai. Kahuzi-Biega, parc national de paix, a comme impact direct la création d'environ 500 nouveaux emplois, la protection des forêts et la réduction des conflits. Pendant 36 mois, il bénéficie d'un financement de 3 millions de dollars américains du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétariat général des Nations Unies. Il est mis en œuvre par le Fonds d'équipement des Nations Unies avec l'appui de WCS. Signalons que cet événement est marqué par la première cérémonie annuelle d'attribution des noms aux jeunes gorilles récemment nés au PNKB. De Chivanga, Emmanuel Elamejo Kabedi, Radio Kapi.
Retour en Ituri, où sept leaders du groupe armé Mouvement Nationaliste Lumumbiste qui se sont rendus aux autorités dans le cadre du programme de désarmement sont aux arrêts depuis 4 jours dans la chefferie de Babila-Babombi dans le territoire de Mambasa. Ils avaient été convoqués par des services de renseignement militaire pour être entendus sur un certain nombre de faits qui leur sont imputés. La coordination territoriale de la nouvelle société civile dénonce cette arrestation qui, selon elle, risque de dissuader d'autres rebelles en attente du démarrage effectif du processus PDDRCS. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est depuis dimanche que ces responsables du mouvement nationaliste Lumumbi ont été invités à Makomo, une entité située à 12 km de Biakato. Convoqués par les services de renseignement militaire, ils ont été entendus puis aussitôt mis aux arrêts, affirme John Vuleberio, défenseur des droits humains. Et pourtant, dit-il, ce groupe armé a adhéré depuis plusieurs mois au processus de paix et demande aux responsables militaires de se pencher sur cette question pour que la chefferie de Babil et Babombi ne retombe plus dans la violence.
Les autorités devraient mettre à clair les choses. Est-ce réellement on a besoin que ces jeunes ou bien ces patriotes restent toujours cantonnés là-bas? Parce que c'est inacceptable de voir les compatriotes qui ont accepté l'appel du chef de l'État encore être arrêtés. Ça va impacter sur la sécurisation de la population dans la chefferie de Babila-Babombi, surtout que nous tendons vers la période électorale où les gens sont concentrés à faire élire, bien entendu, leurs représentants.
Aux dernières nouvelles, certains parmi ces miliciens qui étaient pré-cantonnés à Kasoko commencent à regagner leur bastion dans la forêt, indique la même source. Contacté, un responsable de l'armée dans la zone explique que certains parmi ces miliciens seraient des collaborateurs de Kiangenda, un chef Maïmaï qui est aussi aux arrêts. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, troisième et dernier jour ce jeudi de la campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite initiée par le gouvernement avec la collaboration de ses partenaires techniques et financiers. Cette campagne concerne les enfants âgés de 0 à 59 mois. À quelques heures de la clôture officielle de cette activité, certains parents se sont inquiétés du sort de leurs enfants non encore vaccinés. Jacques Moukonkole.
La stratégie arrêtée pour cette campagne de vaccination contre la polio est le porte-à-porte. Les vaccinateurs sont censés passer de maison en maison pour vacciner les enfants ciblés. Si certains parents affirment avoir fait vacciner leurs enfants, d'autres par contre s'en inquiètent. Tel est le cas de ces deux femmes habitant la commune Makisso. Il n'a pas encore été vacciné parce que je n'ai pas vu les vaccinateurs. J'entends dire que c'est le dernier jour aujourd'hui. Hier, quand nous étions au deuil, j'ai vu les vaccinateurs passer. On m'a dit que ça prendra fin aujourd'hui. Alors, je me demande pourquoi je ne les ai pas encore vus chez nous. Le médecin chef de division provinciale de la santé calme les esprits. Des équipes de vérificateurs ont reçu des kits afin de vacciner les enfants qui ne l'ont pas été lors du passage des vaccinateurs.
Mais s'ils trouvent qu'ils ne viennent pas, ils peuvent aller vers la structure, le centre de santé de l'air de santé. C'est signalé là-bas que notre entité ou notre quartier n'est pas encore ouvert. Les équipes passeront.
Le chef de division provinciale de la santé précise qu'un à deux jours de ratissage sont prévus afin de récupérer tous les enfants éligibles qui n'auront pas été atteints pendant les trois jours prévus pour cette campagne de vaccination. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En actualité internationale, notez que le dirigeant du principal parti d'opposition en Ouganda, Bobi Wine, a affirmé ce jeudi être assigné à résidence après avoir été interpellé par des agents de sécurité à son retour d'une tournée de l'Afrique du Sud. Depuis hier, un fort dispositif policier a été déployé autour de l'aéroport d'Entebbe pour empêcher des actes criminels. La police avait mis en garde contre la participation à tout cortège censé accueillir l'ex-chanteur, jugeant de tels rassemblements comme illégaux. Selon son parti, 300 de ses partisans ont été arrêtés cette nuit. L'accueil a duré à peine quelques minutes avant que Bobi Wine ne soit interpellé, puis mis de force dans une voiture et accompagné jusque chez lui où il s'est dit assigné à résidence.
L'invité.
Blaise Lubumbu Niembo, substitut du procureur de la République de Bukavu, est l'invité de ce journal. Il revient ici sur la problématique des conditions de garde à vue dans des cachots et amigos entretenus par les OPJ de la PNC à Bukavu. Le magistrat Lubumbu Niembo Blaise répond aux questions de Jean Kassami en marge d'un atelier de réflexion des OPJ sur les inspections des cachots organisées à Bukavu par la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Suivez.
Monsieur Lubumbu Niembo Blaise, vous êtes substitut du procureur de la République à Bukavu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Toute une journée en train d'échanger avec les OPJ de la police sur la gestion des cachots, les problèmes qui s'y posent. Quel est l'intérêt pour vous d'organiser une telle séance durant toute une journée?
En fait, l'intérêt, c'est celui de faire voir aux OPJ le respect de la détention des détenus qui sont mis en garde à vue par eux, le respect en fait de la loi, le respect et la dignité de ceux-là qui sont placés en garde à vue, c'est-à-dire la salubrité tout d'abord des amigos, la dignité de toutes ces personnes, c'est que les OPJ ne sont pas en train d'observer. Voilà pourquoi il était impérieux d'échanger avec eux et à la suite de ces échanges, des recommandations ont été formulées par les OPJ afin que les partenaires, la MONUSCO, pour ne pas la citer, puissent présenter à nos autorités politico-administratives et judiciaires les plaidoyers afin d'améliorer les conditions de détention des inculpés.
Vous effectuez régulièrement des visites dans des amigos et cachots de la ville de Bukavu. Quel est l'état des lieux?
Les amigos ne sont pas bien tenus. Nous formulons souvent des recommandations qui partent à qui de droit. Nous attendons à ce que l'ascenseur puisse nous être renvoyé.
Quelles sont les grandes recommandations que vous retenez de participants en fait d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie?
En grande ligne, c'est doter les OPJ des moyens de leur politique, améliorer leurs conditions de travail. La suspension de certains amigos qui ne sont pas reconnus, qui sont placés dans des conteneurs. Voilà un peu à l'imminaire le gros des recommandations.
Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour améliorer ces conditions des OPJ? Qu'attendez-vous de la MONUSCO et d'autres partenaires soucieux d'accompagner?
Nous sommes confiants en notre gouvernement à travers nos hautes hiérarchies à partir de Kinshasa qui ne cessent de plaider la cause, étant entendu que le leitmotiv du chef de l'État, c'est l'instauration d'un état de droit qui doit aussi passer par l'amélioration des conditions de travail des OPJ, les conditions d'incarcération des inculpés. Pour la MONUSCO, c'est l'appui technique pour prêter main forte au gouvernement congolais afin d'arriver à mettre en application cette instauration d'un état de droit.
Le fait que le conteneur serve de lieu de détention, les débats étaient très houleux tout autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant?
Nous retenons que les amigos qui sont installés dans les conteneurs, ce sont des amigos qui ne sont même pas reconnus. Alors que les sous-commissariats et les commissariats de proximité qui ont été créés dans les conteneurs, c'est juste pour rapprocher la police des administrés. Ce ne sont pas des lieux de détention. Alors, les OPJ ont formulé une recommandation sur la suspension et la fermeture de tous ces amigos qui ne sont pas reconnus par la loi.
Monsieur Lubumbu Nyembo Blaise, substitut du ProRep, nous vous disons merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.